Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont-Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
J.H. Rosny, à Bourg-Lacustre, Nomaille. Autant où les hommes vivaient sur les lacs, dans les cavernes et les habitations souterraines, la jeune Égypte ne bégayait pas encore ses hiéroglyphes. La bête était terrible, l'élément obscur, formidable et fatal, et tous les météores semblaient la colère, la vengeance ou la férocité d'êtres impénétrables. Alors vivait, sur le lac du sang, la tribu des fils du loup. Et cette tribu était puissante par la force de ses mâles et par leur cruauté. Elle n'avait aucune morale douce. La vertu était d'autant plus belle qu'elle était meurtrière. Le pardon des injures était un crime. La sympathie pour l'étranger, une forfaiture. La pitié envers les vaincus n'était pas même prévue parmi les choses mauvaises, car on n'en se connaissait point d'exemple. La famille existait. Le père seul y était une personne lui-même. Et les fils, pour se libérer, quittaient la demeure ou recouraient à la force sanglante. Les filles étaient vendues et, dès lors, esclaves sans appel, dont la destruction ne devait susciter ni une vengeance, ni même une colère. Mais les ventes, par le conflit de la luxure et de la cupidité, engendraient le meurtre. Et les hommes n'avaient point encore, à l'exemple des oiseaux, appris le baiser. Il n'y avait d'amour que celui qui, sauvage et rapide, a suffi pendant des millénaires à perpétuer les générations des hommes. Or, un matin d'été, les feuilles étant jeunes encore, les filles du lac sanglant se baignaient dans les eaux tièdes, et les guerriers les regardaient du rivage, car c'était la façon de les mettre aux enchères. Cette race était belle. On apercevait, parmi les adolescentes, la forme ancestrale des divines Hellènes ou des Iraniennes aux grands cheveux. Les hommes, armés de la massue de chêne ou de la lance à pointe de silex, choisissaient leurs épouses selon la force, l'embonpoint et la rançon. À mesure, on appelait la baigneuse, et l'acheteur, éprouvant son épaule, sa croupe et la fermeté de sa hanche, l'emmenait ainsi qu'un bœuf des tourbières ou un bouquetin des montagnes. Parmi toutes brillait Nomaï, la fille du grand chef Lacustre. Les guerriers admiraient sa taille flexible et forte, sa poitrine aux coupes rondes et l'agile vigueur de ses mouvements. Mais la douceur magnifique de son regard, la courbe fine et fière de sa joue, la grâce magique de son sourire, étaient faites pour l'admiration des hommes qui ne devaient naître qu'au siècle futur. Elle traversa deux fois la distance du village à la rive, puis elle apparut debout, la hanche couverte d'une étoffe de fibres, sur un îlot noir, à l'ombre d'un frêne. Et le chef la contemplait avec orgueil, tel un guerrier qui a taillé une hache redoutable ou un arc de longue portée. Près de lui se tenait Rox, le chef des jeunes hommes, qui précède à la guerre, et qui gardait 30 crânes d'ennemis dans sa maison. Couvert d'un poil rouge, sa taille était géante, sa main prompte à l'homicide et lourde comme un marteau. Et soudain, voyant Nomaï debout sur l'îlot noir, il cessa le marchandage avec le chef des chefs et cria d'une voix forte « Qu'il soit fait à ta volonté, Zam, fils de Vor. Tu auras l'ambre, les lances et les pierres gravées qui domptent les volontés invisibles. » À ces mots, un guerrier qui se dressait parmi les roseaux laissa retomber ses bras et devint pâle. ses yeux ne s'étaient point détournés de Nomaïe. Et seul, parmi tous ces hommes fauves, il avait le pressentiment de la grâce d'un visage et de contours harmonieux. Seul, il aimait la lumière variable des beaux yeux de la Vierge, son sourire où se mariaient les impressions fugitives et ses gestes charmants qui renouvellent le rythme des lignes. Oh, ce n'était point un guerrier estimé. Il ne goûtait pas le meurtre et ne se montrait guère âpre à la vengeance. Et il s'abandonnait à la méditation que les fils du loup estimaient lâche, honteuse et sournoise. Les prêtres seuls y avaient droit, parce qu'ils l'entremêlaient de menaces, de sang, de fêtes brutales et de chants terribles. Mais ils n'admettaient dans leur rang que des hommes rusés, capables de maintenir par la malice le pouvoir de l'intelligence. Car ils savaient la douceur impossible et la pitié dangereuse. La force guerrière n'y aurait eu aucun égard. Hamray percevait sa faiblesse. Il en concevait de l'inquiétude, de la tristesse et même de la honte. Il avait lutté contre soi-même, s'était mêlé par devoir à des fêtes sanguinaires et avait exercé la vengeance sur des ennemis sauvages. Mais il ne prenait plaisir qu'à la vie rôdeuse, aux travaux ingénieux et à des réflexions naïves sur les choses étonnantes qui environnent la vie de l'homme. Il niait intérieurement beaucoup de choses qu'affirmaient les prêtres. Ainsi, il ne croyait pas que la foudre fût la voix du dieu des airs, mais plutôt un feu que les nuages allaient prendre sur les montagnes volcaniques. Il lui semblait aussi que les dieux devaient préférer la chair des animaux à celle des hommes, et la pierre d'ambre au sang chaud. C'était encore sa pensée que l'eau avait été faite par la lumière, puisqu'elle reproduit l'image des choses. Enfin, il se persuadait que les tribus lacustres ne descendaient pas du loup, mais plutôt du mélange de l'ours et du cheval. Bon, il n'avouait aucune de ses opinions singulières. Il savait qu'il serait immédiatement mis à mort s'il les faisait connaître. Toutefois, il tirait quelque orgueil de les avoir conçus. Il aimait Nomaïe, et de cet amour, il ne connaissait que la nette puissance. Il ignorait que le désir germait dans son âme d'être aimé en retour. Une telle chose lui eût paru plus extraordinaire que toutes ses autres sensations, comme s'il avait prétendu être aimé par ses armes, par le fruit cueilli au bord du lac ou par le feu qu'il allumait sur le foyer de pierre. Et il ne rêvait que d'acheter la fille du chef ou de l'enlever par la force et la ruse vers les montagnes voisines. Quand il entendit Rox conclure le marché avec Zam, il se sentit plein d'épouvante et de rage. Il exécrait le chef des jeunes hommes, et c'était sa seule haine véritable. Moins fort et moins habile au maniement de la lance, il s'exerçait à l'arc, persuadé qu'il ne pourrait éviter un conflit avec le compagnon impitoyable. Et il s'effaçait de la présence de Rox pour éviter une injure trop cruelle. Cependant, Zam avait répondu, « Oh, je veux aussi deux cornes de peinture de guerre et ton grand arc de frêne. » Rox hésita, car il trouvait déjà la fille bien coûteuse. Mais, la regardant encore, debout sur l'îlot noir, il répondit, « Oh, je le veux !» Le chef lacustre mit son bâton de commandement sur l'épaule de l'autre, en signe que le marché était irrévocable. Mais Nomaïe, ayant aperçu le geste, exerça son droit de fille de chef. Elle clama, « Je ne veux pas appartenir à Rox !» Ses refus étaient rares, suscités par la crainte d'un maître trop dur, et non par une raison inadmissible chez la femme de préférence. Zam et Rox lui jetèrent un regard sauvage, de dédain, de surprise et de colère. Le vieux chef, se contraignant au calme, interrogea son compagnon. « Consens-tu à l'épreuve de la nage ?» Dans cette épreuve, la jeune fille recevait 10 coudées d'avance. Elle pouvait récuser l'homme s'il n'avait point rattrapé cette distance sur l'espace qui s'étendait de la pointe d'un petit promontoire jusqu'à l'extrémité orientale du village lacustre. « J'y consens, » fit dédaigneusement Rox. Et son visage montra qu'il n'oublierait point cette injure. Cependant, Amrek s'était avancé vers le promontoire. L'action de Nomaï l'étonnait autant que les autres. Elle le remplissait de ravissement. La sensation obscure qu'il avait de la préférence chez la femme lui devint presque intelligible. Il regarda avec des yeux de feu la belle fille qui rejoignait lentement le rivage. Elle se jouait dans l'onde ainsi qu'une déesse des abîmes. Sa blanche épaule jetait un ray de lune dans l'eau bleue, tandis que sa grande chevelure flottait derrière elle comme une algue merveilleuse. Elle aborda. D'un bond léger, surgissant des roseaux, elle vint devant Amrai. Arrêtée dans une pose de jeune biche prête à la fuite, elle tendit vers le guerrier la jeunesse de ses yeux et de son visage. Il comprit confusément qu'elle invoquait son aide et qu'elle n'aurait point réclamé l'épreuve de la nage contre lui. Plus inexprimable encore, mais avec une ardeur invincible, il eut l'impression qu'il obéirait en esclave à Nomaï, qu'il trahirait les dieux, les hommes, et qu'il s'exilerait des eaux natales pour qu'elle se reposât volontairement contre sa poitrine. Et sur le vieux drame sauvage des cavernes, sur la convoitise luxurieuse, mais solitaire, des fils du loup, s'élevait dans cette âme un des premiers drames psychiques de l'humanité, où le désir de posséder la femme s'accrut du désir d'être possédé par elle. Et c'était aussi l'aube du temps où, près du crime commis pour la femme, naîtrait le crime accordé à la femme. Nomaï détacha lentement son regard de celui d'Amrai. Elle courut à la pointe du promontoire, puis abaissant ses bras vers le lac. « Ô reine des gouffres, toi qui fis sortir les femmes de la terre trempée dans l'eau, je te tisserai 10 tuniques si tu me donnes la force et la vitesse. » Sa voix étonnait Amrai par son ardeur sombre et sa mélopée, tandis que Rox, inquiet, conjurait la prière. « Père, qui tira les hommes du rocher, je tuerai pour toi 2 captifs et je t'offrirai leur cœur si tu refuses la force de la vitesse à cette fille. » Alors Nomaï bondit dans les flots jusqu'à la distance de 10 coudées, et Rox, au signal du chef lacustre, la suivit. Elle nageait mieux qu'une autre fille des eaux, souple autant que la truite ou l'ombre chevalier. Lui fendait l'onde à grands gestes. Leur vitesse apparut égale. Rox ne gagnait point de terrain sur la Vierge énergique, et Amrai haletant d'espérance. Les baigneuses et les guerriers passionnés pour la lutte, le vieux chef lacustre, craignant de perdre la dot éclatante, regardait s'éloigner les antagonistes. Déjà Nomaï n'était plus qu'à 100 coudées du bout, lorsqu'une poutre détachée du pilotis va la frapper à l'épaule. Surprise, elle eut un arrêt. Puis, malgré la douleur, elle reprit la lutte. Mais Rox donnait tout son effort. D'un mouvement farouche, avec une clameur sauvage, et lancé sur la vague, il s'empara de la Vierge charmante. Les guerriers, toujours du parti vainqueur, hurlait l'éloge de Rox. Le chef lacustre se réjouissait à la pensée de l'ambre, des armes et des plaques magiques, tandis que sombre, l'âme pleine de meurtre, Amray baissait la tête et s'appuyait contre un arbre. Cependant, Nomaï s'était dégagée de l'étreinte. Elle gagna le village. Elle se dressa resplendissante sur l'estacade. Et tournée vers Rox, bravant le destin et la victoire, « Je courberai pas la tête devant toi » cria-t-elle. Le rire du jeune chef courut sur les eaux. « Oh, quand tu aurais les ailes de l'aigle ou les pieds du bouquetin au soleil levant, je t'emmènerai dans ma demeure. » Elle ne répondit pas. Elle parut accablée. Son visage se tourna vers l'arbre où se tenait Amray. Et le guerrier sentait une espérance bouillonner à travers sa tristesse, comme l'eau des sources à travers le roc dur. C'était la nuit. Amray veillait dans sa hutte. Plusieurs fois, il avait rôdé auprès de la grande demeure de Zam, mais les chiens à tête de loup hurlaient tous ensemble lorsqu'ils tentaient de franchir la palissade. Car Zam vivait dans le village, comme s'il eût campé parmi des bêtes mangeuses d'hommes. Amray écoutait la voix fraîche du lac, la plainte de la brise s'élevant par intermittence, et les passages d'ailes et de bestioles légères. Un glissement le fait tressaillir. Il voit une ombre paraître dans le cadre de sa porte, et une voix basse murmure. « Veilles-tu, Amray ?» Il reconnut la voix et le mouvement. Son cœur s'éleva comme une tempête, et il répondit « Je veille, fille de Zam !» Il s'était levé. Il tremblait de tous ses membres. Elle reprit à voix basse, faisant un pas dans la hutte. « Ferme cette porte !» Il rabattit d'une clé grossière et la couvrit d'une fourrure. Alors Normaï prit dans sa tunique une de ces pierres phosphorescentes que les fils du loup tiraient de la montagne et dont ils s'éclairaient par les nuits obscures. Celle-ci était grande. Elle jetait une lueur bleue sur la fille du chef. Amray vit ses yeux étincelants et la douceur de son visage, et elle dit encore « Je suis venue, car je ne veux pas appartenir à Rox. » Elle posa son regard sur celui du jeune lacustre. Il conçut ce qu'il était seul parmi ceux de sa race capable de concevoir. Et il le conçut alors clairement. Le pouvoir de la femme, tout brûlé de la magique ardeur de se donner au lieu de prendre, la servitude passa de son âme sur sa face. « Tu ne veux pas appartenir à Rox ?» fit-il d'une voix faible. « Non, je veux appartenir à toi !» Il poussa un profond soupir. Sa joie était telle qu'il chancelait. Il cherchait un mot que les hommes n'avaient pas encore créé pour les femmes, qu'il ne trouvait point. Il répondit enfin, « Et moi aussi je veux t'appartenir. » Il s'était rapproché. Il la saisit entre ses bras avec douceur. Il demeurait dans une palpitation de tendresse. C'était pour l'un et l'autre un prodige, un événement de légende, d'une légende que les conteurs de la tribu n'avaient point chantée. Elle se dégagea la première. « Demain, au soleil levant, Rox doit me réclamer. Comment feras-tu pour me reprendre ?»« Mais je n'ai point de richesse, » fit-il. « Ne veux-tu pas fuir au loin du lac ?» Il ne songeait pas à combattre, non par crainte, mais par la certitude d'être vaincu, Economaï serait plus sûrement esclave. Elle comprit cela aussi bien que s'il eût dit à voix haute. Non, fit-elle, je ne veux pas m'enfuir loin du lac. Nous serions ressaisis par les fils du loup, captifs chez les hommes des cavernes ou chassés par ceux qui vivent sur les arbres aux forêts de l'Orient. L'énergie voluptueuse de sa parole laissait Ahmed sans résistance. Et il repartit. « Mais que veux-tu faire, fille de Zam ?»« Ce que tu voudras, je le voudrai. » Et elle dit, sauvage et douce, « Il faut ôter le souffle à Rox. Sa vie est sur notre vie. Elle nous écrase, comme la pierre à moudre écrase le grain. Et nous ne pourrions respirer tant que battra son cœur. » Je n'ai point peur de mourir, je combattrai Rox. Mais ses armes sont meilleures que les miennes. Il est plus habile à s'en servir. Je périrai et tu seras sa prisonnière. » Elle, mettant sa main contre la poitrine d'Amret, « Il ne faut pas le combattre, mais le tuer par la ruse. Il n'a pas de parents mâles, or le père de son père, qui est plus semblable à un vieux frêne qu'à un homme. Ses frères ont péri dans la lutte contre ceux de la montagne. Son père a été dévoré par les abîmes. Personne ne réclamera le prix du sang. Nous nous comparerons de ses richesses et nous les partagerons avec Zam. » Amret ne fit aucune résistance contre l'acte même. Mais les chiens rouges le gardent. Si nous touchons à la palissade, ils gronderont, et leur secours rendra Rox invincible. » Elle répondit d'une voix sombre, « Ils ne gronderont plus. La chair que je leur ai jetée avant de venir te rejoindre a détruit leur souffle. Et voici, je frapperai à la maison de Rox, et je l'appellerai. Il reconnaîtra ma voix, il sortira. Et comme il est possédé de mon image, il voudra me prendre contre lui, et je lui tiendrai les mains. Et toi, tu viendras par derrière pour lui fendre le crâne. » La vision de ce meurtre, partagé avec elle, emplit Amret d'un délire délicieux et tendre. Il la regarda à la lueur de la pierre bleue, comme s'il eût pu regarder une déesse. Et il la reprit contre son sein avec un soupir d'extase. « Va, fille de Zam, je ferai selon ta parole, et je te délivrerai. » Elle dit, « Prends tes armes. » Il choisit sa hache, la meilleure, une lance acérée. Nomaï leva silencieusement la clé et la fourrure qui fermait la flûte. La chair noire de la nuit, les petites pierres étincelantes des étoiles, seraient peut-être tremblantes dans le lac. C'était l'heure où le sommeil de l'homme est pesant. Les chiens même goûtaient un repos plus tranquille. D'ailleurs, il ne donnait de la voix que si l'on se heurtait aux palissades, ou si l'étranger et la bête carnivore paraissaient sur le lac. Amret et Nomaï marchèrent silencieusement sur les chemins de madriers et de pierres. Leur âme était résolue. Ils allaient à leur acte comme le rocher roule dans le gouffre. Ils ne s'arrêtaient que pour écouter les bruits vagues qui auraient pu être le mouvement d'un homme. Mais ils reconnaissaient vite le passage d'une effraie, le pas d'un martre, ou la fuite d'un radeau. Ils vinrent près de la maison de Rox. Massive, aussi grande que celle de Zam, la lumière des étoiles en tirait un reflet grisâtre. Elle était environnée d'une haute palissade de pieux et d'arbustes. Nul ne pouvait y toucher sans éveiller la fureur des chiens rouges. Mais lorsque Nomaï y porta la main, Le silence persista sur le village. Elle dit tout bas, « Tu vois, la chair maudite était sûre. Leur souffle est parti. C'est pourquoi franchissons la palissade. » Tous deux étaient lestes, souples, habiles à le point déceler leur présence. Ils se trouvèrent près de la porte. Amret se dissimula parmi les branchages. Alors Nomaï frappa du poing contre la porte. La voix terrible de Rock s'éleva dans le silence. « Malheur à ceux qui troublent mon sommeil! La mort est déjà sur leur poitrine !» Nomaï repartit avec douceur. « Je suis venu !» Rox, étonné, demanda « Pourquoi es-tu venu ?»« J'ai reconnu ta puissance, pour que tu ne me frappes pas au lever du soleil. Voici ton esclave. » Il poussa un rire de triomphe que le soupçon et l'inquiétude l'interrompirent. « Mes chiens n'ont pas hurlé !» Mais la jeune lacustre tenait sa réponse prête. « Mais il m'aurait dévoré si je leur avais dit la parole magique du dieu des loups. Oh, ils ne s'éveilleront qu'avec le jour !» Rock souleva la fourrure de sa porte. Ses yeux perçants sondèrent la nuit. Mais il ne vit que les corps étendus des chiens et la forme de Nomaï. La chair gonflée de désir, ivre d'audace et toujours vainqueur, il n'imagina point qu'aucun guerrier de la tribu osa se lever contre lui, et moins encore qu'une femme pût guider la volonté d'un homme. Seul le silence des chiens l'avait troublé. Mais il croyait aux paroles magiques. Il prit seulement une lance, leva soudain la claie et parut devant la jeune fille. Et il dit, presque avec douceur, « Tu es venu !» Déjà, le désir avançait ses bras formidables. Il tira la Vierge vers sa poitrine. Elle, jetant ses mains autour des épaules de Rox et s'attachant avec désespoir, cria, « Frappe !» Amret sortit de l'ombre. Sa hache luisit faiblement en s'élevant, et elle s'abattit comme un marteau. Rox poussa un cri pareil au hurlement des urus d'hiver. Il tomba sur un genou, puis se releva en brandissant sa lance, et il semblait encore dans sa force. Mais un deuxième coup de hache entra dans son épaule. Un troisième trancha sa figure. Alors il s'écroula sur le sol avec un bruit lourd. Atteint son cœur, dit Nomaï, sa vie est notre mort. Amret fouilla au bout de sa lance dans l'ombre, et quand il atteignit le cœur, le cri de la mort retentit sur le village lacustre parmi les hurlements des chiens farouches. Les hommes et les femmes se levèrent et coururent vers la demeure de Rox. Et Nomaï se cacha parmi la multitude, tandis qu'Amret criait « La mort était déclarée entre Rox et moi. L'un de nous devait périr. Les dieux m'ont donné la force. Malheur à qui s'élevera contre moi. » Mais nul ne pensait à s'élever contre lui, mais plutôt à l'admirer, à le craindre. Et le guerrier dit encore, « Je prendrai sa demeure, ses armes et ses trésors, comme il a été dit par nos ancêtres, et j'achèterai Nomaï, fils de Zam, en payant une rançon double. » Et Zam éleva la voix à son tour, « Cela est bien que celui qui a vaincu son ennemi prenne sa place. Tu emmèneras la fille au soleil levant. » Et tous crièrent « Cela est bien !» Le chef des prêtres, qui n'avait pas voulu initier Amret, par crainte de sa douceur, s'avança. Les dieux ont dit, prends possession, Amrei, de la maison de Rox. Toutefois, tu paieras tribut aux dieux des nuées. J'y consens, fit Amrei. Et sur le signe du prêtre, on le laissa solitaire. Sa joie était vaste comme le lac et les montagnes. Il y avait en lui une adoration confuse et merveilleuse. Il soupirait vers Normaille, comme la terre sèche vers la pluie. Il était aussi doux d'avoir obéi à la femme que d'avoir triomphé. Il sentait confusément que son meurtre était une action plus haute que les meurtres des hommes de son temps et moins cruelle. Un instinct de justice, de défense du faible et du pensif palpitait dans sa poitrine, et son amour s'approfondissait de ces choses obscures. Or, il ne pouvait dormir, et il vit beaucoup d'étoiles glisser au fond du lac et beaucoup d'autres s'élever sur la montagne. Il pensait à la pierre bleue de Normaille et se demandait si les étoiles ne lui étaient point comparables, car elles se plongent dans les eaux et n'y perdent pas leur clarté. L'aube argenta l'étendue. Les constellations se ternirent devant le crépuscule rouge. Elles s'enfuirent au soleil et de cuivre, et il se fit un bruit d'oiseaux et la brise se retourna sur les vagues. Alors Amrei cria vers le soleil, « Œil du feu, joie du monde, regard du Dieu qui sécha la terre et lui donna des arbres. Laisse-moi l'héritage de Rox et la possession de Maï. Je t'offrirai l'orbe, l'urus, cheval et les béliers aux cornes longues. » Cependant, Zam conduisait sa fille vers la demeure d'Amrei. Elle portait autour du cou et des épaules un lien de cuir en signe de servitude. Elle tenait à la main droite une pierre à broyer le grain. La fleur sagittaire, la flamme, la spirée étincelait dans sa chevelure. Et Zam l'emmenait au milieu des fils et des filles du loup, tant qu'il aperçut Amrei. Il cria, Zam, fils de Bor, n'a pas de visage. Il t'apporte selon qu'il a été dit, celle qui doit engendrer tes enfants. C'est pourquoi songe toi-même à ta parole. Amrei dit à son tour, celui qui manque à sa promesse est parmi les hommes, ainsi qu'un peuplier sans racines. Voici l'ambre, les lances, les pierres gravées, qui dompte les volontés invisibles et les cornes de peinture. Puis, montrant la multitude, « Que tout ceci soit témoin !» Zam répondit plein de joie, « Oh, cela est juste !» Et les assistants s'écrièrent, « Nous avons vu !» Prenant sur sa poitrine une pierre de néphrite, le père fit ouvrir la bouche à Momaï. Ensuite, d'un coup sûr, il lui cassa une dent longue ainsi qu'il est ordonné. Le sang jaillit. La jeune lacustre tendit elle-même avec douceur la dent brillante à son maître. Ainsi fieré fils du loup, depuis 10 fois 10 générations, dit Zam. Et donnant nos mailles, bof, n'ai plus de fille. Alors, selon la coutume, tous se retirèrent. Amrei demeurait plein de troubles devant la jeune fille. Dans son âme amoureuse se glissait la pitié, ainsi qu'une fleur subtile sur la terre humide. Il lui fut dur que le sang jaillît de la bouche charmante de Normaille. Et il trouva une parole si douce qu'aucun homme, depuis le commencement du monde, n'avait dit la pareille à une femme. « Je voudrais, Normaille, que mon sang coule et non le tien. » Elle se jeta vers lui, ardente de gratitude. Et, penché, il trempa sa bouche dans le sang qui coulait des lèvres rouges. Ce fut une impression étrange, dissolvante et délicieuse. Leur veine et leur chair semblaient confondues, et il leur vint, obscure mais profonde, l'intuition de la future caresse de l'amour, le pressentiment du baiser. Rosny est né. La grande énigme. Le crépuscule était proche quand nous atteignîmes enfin les collines bleues, arides et sinistres, faites d'un granit dur comme le diamant. Les lichens même avaient renoncé à les conquérir. « Oh, nous y voilà enfin !» fit mon compagnon d'un air de triomphe. Je le regardais, plein de méfiance. Après 3 jours dans le désert, cela me semblait une affolante mystification. « Mais la vie est au-delà » affirma-t-il. « Au-delà, » dis-je avec amertume. « Et comment les gravir? Ce sont de véritables murailles !» Il inclina la tête avec son sourire énigmatique. « Homme de peu de foi, ne vous ai-je pas dit qu'il y a un chemin ?» Il se mit en marche vers la droite. Après une dizaine de minutes, il me montra une fissure irrégulière qui s'enfonçait dans l'ombre. « Voilà !» Et déjà, il entrait dans l'étroite caverne, armé de sa lanterne électrique. Les lueurs violettes se répandaient dans une nuit silencieuse. La voie était étroite, nous marchions avec peine. Et cela durait. Fatigué par la longueur et les épreuves du voyage, je devenais incrédule. Enfin, la fissure s'élargit. Nous nous trouvâmes dans une caverne spacieuse, où peu à peu une lueur se mêlait aux raies électriques. Cette lueur s'accrut. Elle suffisait à nous guider. « Nous approchons !» fit presque solennellement Daniel. La lumière devint vive, encore que douce. C'était cette lueur orangée qui précède le départ du soleil. Cependant, je ne voyais toujours rien. Je maugréais involontairement. Nous tournâmes une saillie et... je poussais une exclamation. La terre promise était là. Qu'elle était belle. Un soleil immense, un brasier rond et couleur de cuivre se mirait dans les eaux du lac. Des arbres très hauts, des roseaux énormes oscillaient lentement à la brise du soir. Et tout de suite, je reconnus que j'étais initié à un grand mystère. D'étranges sangliers aux soies violettes, aux allures fantastiques, accouraient vers le rivage. Des hippopotames montraient leurs mufles énormes à la surface du lac, ou bien gravissaient la berge. Il décelait des torses couleur d'or et des yeux convexes. Des coérothériums, des sylvanériums, le disait mon compagnon. Des coérothériums, des sylvanensis, disait mon compagnon. Mais une rumeur emplit l'étendue. Dans les vagues chevaux qui filaient le long des saulets, je reconnus le caractère des hipparions. D'autres bêtes accoururent, qui toutes galopaient dans la même direction, et le tournaient. Et je vis un troupeau qui s'avançait immense et irrésistible. Là-bas, dans la solitude africaine, aux rives du Niger ou encore près du Gange sacré, j'avais vu des troupeaux de comparables. Pourtant, je ne m'y compterais pas. À leurs deux systèmes de défense, celle d'en haut, presque droite, celle d'en bas, faiblement recourbée, je ne sais quel aspect général. Et guidé aussi par l'intuition, par le milieu, par la présence des autres bêtes, je reconnus les formidables mastodontes. Ils venaient comme des rogues vivants. Leurs pieds étaient des colonnes, leurs têtes des blocs de granit. Ils venaient doucement, souverainement, dans leur force pacifique. « C'est grandiose !» m'écriai-je, saisi d'un enthousiasme mystérieux et mystique. « Oui, acquiesça Daniel, attendri, nous avons franchi 2000 siècles dans la profondeur du temps. Je goûtais une joie de recommencement du monde. Ce grand amour du passé qui est au cœur des hommes se confondait avec une conscience incontestable résurrection. Un nouvel épisode me fit tressaillir. Deux créatures venaient d'apparaître, deux créatures verticales, toutes palpitantes de jeunesse. Elles jouaient. Les grands cheveux sombres s'éparpillaient sur leurs épaules. Les membres et le torse étaient recouverts d'une peau soyeuse, de couleur brune, et de leurs mâchoires semblaient un peu étranges, et les yeux très grands, très doux, très lumineux, étaient aussi beaux que les plus beaux yeux des femmes. Je les contemplais avec une sorte de crainte, et je murmurais « Daniel, est-ce que... »« Oui, ce sont des enfants, » affirma-t-il, « des petits d'hommes, exactement les enfants de nos ancêtres, des âges tertiaires, contemporains de ces mastodontes qui s'abreuvent au lac. Et vous voyez qu'ils sont charmants. » Une sorte de rugissement nous fit dresser la tête. Une bête fauve était venue. Une bête râpue, aux dents en poignard, au pelage orange, ocellée de taches mauves. Elle bondit. Les petits d'hommes, magnétisés, paralysés, demeuraient immobiles. Encore quelques bonds, et la bête allait les atteindre. D'un même geste, Daniel et moi épaulâmes. Une double détonation retentit sur les eaux lacustres, et fit dresser la tête au mastodonte. Atteint à la tête et au défaut de l'épaule, le fauve tournoyait. Craignant que dans son agonie il ne réussît à venger son sort sur la mort des enfants, nous tirâmes encore, puis, me précipitant, je plongeai mon couteau dans les côtes de la bête. Elle poussa un soupir rauque, et roula sur le sol. Alors je me tournai vers les petits d'hommes et leur parlai en souriant. C'est le privilège des jeunes créatures de passer sans transition de la peur à l'allégresse. Celle-ci ricanait, pleine d'une confiance sans borne, comme si elle nous avait connus de toute éternité. Déjà les enfants étaient auprès de moi. Il m'observait curieusement. Je pris le plus jeune dans mes bras. Il me laissa faire. Il montrait ses dents extraordinaires dans la lumière rouge. Le soleil croulait et simultanément, une lune immense montait à l'horizon. Les mastodontes avaient cessé de boire et s'étaient remis en marche. La terre tremblait. Alors une voix s'éleva, grave d'abord, puis aiguë. Nous nous tournâmes. C'était encore la bête verticale, mais adulte. Un homme de couleur fauve, la chevelure en crinière, le visage lourd, aux mains illuminées, humanisées par les mêmes yeux que les enfants. Il tenait à la main un dard long bâton, ou plutôt un épieu, et un peu plus loin, mais grande, un peu grêle, une deuxième créature qui tenait un petit sur son épaule. « Nos ancêtres !» fit solennellement Daniel. Peut-être avait-il été d'abord effrayé, mais en voyant la sécurité de leurs enfants, eux-mêmes se rassurèrent, et ils eurent un rire plein de confiance. Comment pourrais-je dépeindre la poésie religieuse de cette scène? Elle éveillait tous les rêves profonds de l'adolescence, toutes les aspirations qui s'agitaient dans mon âme, toutes les ramures de mes forêts natales. Elle satisfaisait ce besoin fervent que j'ai toujours eu de remonter au cours des siècles, de revivre un peu de cette vie primitive dont nous gardons le souvenir, puis passionné au fond de notre instinct. Le soir tombait, après un crépuscule rapide, la croix du cygne brillait au fond du paysage préhistorique, une lune d'argent et de nacre sifflait si doucement parmi les étoiles et traçait sur la lune et sur le lac une large chaussée rayonnante. Nous avions affumé le feu des nuits. Nous mangeons ensemble la chair sèche que nous avions apportée avec nous. Nos hôtes étaient aussi tranquilles que s'ils avaient de tout temps vécu avec nous. C'étaient des êtres innocents, encore que l'homme eût sa vigueur des grandes anthropoïdes et fût de taille à se mesurer avec les Machairondus. J'avais cru d'abord qu'ils n'avaient point de langage, mais je me trompais. Déjà le Verbe les élevait par-dessus les autres vivants. Ils échangeaient des signes et quelques interjections qui s'adaptaient à la simplicité de leurs actes et de leurs impressions. Dans le beau soir où la clarté rougeâtre du feu se mêlait à la clarté argentine de la lune, ils étaient intensément joyeux comme des enfants, remplis de cette délicieuse confiance que donne un facile oubli de l'avenir. Et moi aussi, j'étais plein d'une suprême béatitude. J'avais le sentiment d'avoir rajeuni d'une manière inconcevable, rajeuni pour moi-même, et pour tous mes ancêtres, j'unissais dans ma poitrine tout le présent et tout le passé. Je me souviens qu'un des enfants s'était endormi dans mes bras. Le bruit léger de son souffle se mêlait à la voix enchantée de la brise et au ruissellement frais d'une source lointaine. Des fauves passaient dans l'ombre, des oiseaux nocturne volait à la cime des arbres. L'odeur enivrante des végétaux nous arrivait par bouffées. Je tenais cet enfant contre ma poitrine avec une tendresse infinie. Telle est l'aventure la plus belle, la plus exaltante de ma vie et la plus regrettée. J'ai voulu la revivre. Je suis revenu près des collines bleues. J'ai trouvé la caverne, mais la terre préhistorique n'était plus. Il avait suffi d'une secousse, d'une faible frisson de la surface terrestre pour engloutir les restes d'un monde vieux de 200 000 ans. Achrosny est né de l'Académie Goncourt.